Depuis quelques années déjà, je vois autour de moi les couples se faire et se défaire, y compris les couples parfaits, ceux qui me faisaient rêver, ceux qui me donnaient envie d'y croire. Fraîchement séparée, je m'interroge et je me documente un peu sur la question. Puis l'ethnologue en moi se réveille peu à peu et se dit que cette drôle d'espèce que sont les couples heureux commence à se raréfier. Qu'elle est peut-être même en voie d'extinction. Je me dis que c'est sans doute le moment ou jamais de tenter de découvrir quels sont les ingrédients de la recette, celle qui permet de faire durer l'amour, celle qui nous donne envie de rester.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
Et que du coup, j'observe avec beaucoup de curiosité les rares couples qui restent ensemble et qui m'ont l'air d'être épanouis et qui m'ont l'air de s'aimer encore. Je suis chez Babette et Gilda, dans un beau coin perdu de Drôme Provençal. On est en terrasse, il fait super doux. On est entouré d'arbres. Il y a un bassin avec une source. Il y a des chats qui traînent. Il y a Gilda qui est à côté de moi. Et Babette qui a filé chercher un cendrier.
On s'était rencontrés à Valoir, en Savoie, la première fois qu'on s'est vus. C'était chez des amis communs, mais Gilda avait une amie. Moi, je n'étais pas forcément disponible non plus, de toute façon. Donc, j'avais juste trouvé Gilda très beau, mais c'est tout, quoi, sans plus. Donc, il faisait la transhumance à Valoir. Et puis, 3 ans après, on s'est retrouvés chez des amis dans la Drôme. Moi, j'étais venue ramasser les cerises. Gilda était venue pour les voir avant de partir en montagne. Et Gilda, il m'a dit, est-ce que je peux dormir avec toi? Et je lui ai dit non, pas ce soir.
Ça commence bien.
Ça a commencé comme ça. Gilda partait en montagne et m'avait dit, est-ce que tu pourrais me rejoindre? J'avais dit oui, mais plutôt après le 15 août.
À part que oui, effectivement, elle m'a dit bah, je vais venir après le 15 août. Donc pour moi, après le 15 août, c'était le 16. C'était le 16 août et elle est venue seulement au mois d'octobre. Le mois de septembre a été un peu dur à vivre. Puis on est parti faire les vendanges et puis on est parti à Majorque. Et puis voilà, puis ça a commencé comme ça et voilà.
On s'est retrouvés vraiment ensemble quand je suis venue donc à Valoir. Moi, il me semblait que c'était en septembre. Mais bon, peu importe, ça te paraissait long d'attendre.
Non, mais une petite carte. Moi, c'est des reproches 40 ans après quand même. Hein. Une petite carte, ça aurait été pas mal quand même à l'époque.
Que ça veut dire que du coup, la première fois que vous vous êtes croisés, vous avez eu une sorte de coup de foudre ou quelque chose de cet ordre-là?
Moi, je ne parlerai pas de coup de foudre. Dans l'idée, je préfère quelque chose qui se construit un peu plus doucement. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y a sûrement des coups de foudre qui durent, c'est possible. Mais dans mon cas, je trouve que les coups de foudre, c'est épuisant, quoi.
Non, c'était pas le coup de foudre, c'était... Bon, moi, je la trouvais super belle. Hein. J'ai dit, bon, c'est pas pour moi, je suis pas... Mais voilà, donc je la trouvais ouais, très belle, très attirante, très... voilà.
Moi, je trouve ça plutôt magique, cette histoire de croiser un regard et d'entrer en amour, de tomber amoureux. Pourtant, la sociologue Eva Illouz écrit qu'une culture du choix verbalisé à l'extrême pourrait réduire considérablement notre capacité à nouer des liens affectifs sans raison, à s'engager sur la base d'une intuition.
La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en sixième, c'était à la rentrée de sixième. Donc on avait tout juste 10 ans, 11 ans quand on rentre en sixième, quelque chose comme ça. On s'est retrouvés dans la même classe. On vivait dans deux villages à côté de Valréas et on s'est retrouvés au collège au même endroit. Ça, c'est notre rencontre, on va dire, la première fois qu'on s'est rencontrés pour de vrai, qu'on s'est connus. Mais pour de vrai, on ne s'est pas mis ensemble à ce moment-là. Et au lycée, on est devenus très bons amis en quoi première, à vraiment passer notre temps ensemble et tout le temps. Tout le temps, on avait la même bande de potes. C'était, moi, Jean-Baptiste, c'était mon meilleur copain. Et on s'est mis ensemble au tout début de notre première année de fac.
Ma version, c'est que, bah oui, on se connaissait depuis longtemps. Et un jour, en première, c'était le bordel sur la gestion de la cantine. Je crois qu'il refaisait, c'était au moment où il refaisait le self du lycée de Nyons. Donc du coup, on était, sinon on avait des tables définies en fait. Toute l'année où on devait manger ensemble. Donc là, je me suis retrouvé dans la table de Lucie et on a discuté pendant qu'on mangeait. Je suis sorti de là, je suis allé voir mes potes, j'aurais dit, bon, ben, le jour, ce sera ma femme. Et c'est là où j'ai commencé un traquage de plusieurs années avec, bon, jamais aucun rebondissement. Et bah, au bout de 3 ans, j'ai fini par lui dire, bon allez, c'est bon, là, on était à la fac. Je me suis dit, bon, moi j'ai besoin d'aller voir, d'avoir des potes différents, de vivre autre chose, parce que en fait, moi je m'en sors pas, je crois que j'étais fou amoureux et il se passait rien. Donc un jour, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit que bah, il fallait qu'on arrête de se voir. Et bah, elle a pas tenu très longtemps.
Ouais, 2-3 jours. Enfin, ouais, il s'est passé une petite semaine, effectivement, entre le courrier où moi, ça m'a mis dans tous mes états. Je suis partie de Lyon, en fait, sur un coup de tête, en disant, bah là, c'est bon, c'est plus possible. Donc, je suis rentrée chez moi, toute seule, sans prévenir personne. La grande classe, en stop, nickel. Et puis, quelques jours après, ouais, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle et qu'on se retrouve parce que. Bah parce que là, effectivement, ça devenait une évidence que c'était pas possible de vivre sans lui. Après. Pour moi, c'était aussi de lui dire, ben, viens, on se met ensemble et puis je vais te montrer que ça ne peut pas marcher. Comme ça, on restera bons amis. Voilà, ça, c'était en octobre 2001.
Et aujourd'hui, du coup, on est chez Lucie et JB à Saint-Djal, dans un petit village de Drôme Provençal. Là, on est dans la cour de votre nouvelle maison, qui est un très bel endroit. Il y a des plantes, il y a des chats. Il y a des échafaudages aussi de partout. Vous êtes du coup dans une grande maison nouvelle en train de vous installer, c'est ça ?
Oui, depuis 4 mois, on a bougé d'Arpavon pour venir se poser au centre du village de Saint-Djal.
Et vous y êtes bien ?
Ouais, carrément. Non, vraiment bien, ça fait plaisir. Je pense que c'était un moment de vie qui était important, ou en tout cas un chemin important à faire d'arriver ici, ouais.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qu'apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage, des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Est-ce qu'il y a un ou plusieurs grands caps, grandes crises que vous avez dépassées et dont vous vous dites aujourd'hui que c'est des moments, des épreuves qui vous ont aussi permis de vous construire en tant que couple?
Oui, il y a plusieurs années, Gilda avait rencontré quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça a été très très dur. Gilda est partie pendant deux mois et demi, sans donner de nouvelles, sans... c'était une demande aussi de ma part. J'étais complètement terrassée, Donc j'ai décidé d'aller en parler à des psys. Mais ça, c'était au bout de plusieurs mois de mal-être, enfin vraiment, où j'étais dévastée, quoi. Là, j'ai antidépresseurs, etc. C'était terrible. Et petit à petit, le fait de se faire aider, le fait des antidépresseurs, je trouve que c'est génial. Et du coup, on se dit, mais je ne vaux pas ça, quoi. Je ne vaux pas ça. Je n'ai pas envie de me faire maltraiter. Et quand il est parti, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit, je suis mieux seule, quoi. Je suis vraiment mieux toute seule. Mais bon, et donc on a tenu un moment comme ça. Gilda a fait une thérapie, enfin voilà, et ça m'a beaucoup aidée, sa thérapie, et le fait qu'après, dans notre couple en tout cas, j'ai trouvé que ça avait approfondi et que ça avait vraiment changé beaucoup de choses dans notre relation à tous les deux.
Voilà. Est-ce que tu saurais dire ce qui a été moteur dans le fait que vous êtes arrivés à vous retrouver après cette épreuve?
Je pense que l'amour, ça c'est sûr. Je pense que voilà, une profonde affection, ça c'est sûr. Après, des garde-fous, hein, la peur. En ce qui me concerne, la peur aussi. La peur, peut-être que si j'avais été dénué de peur, peut-être que d'entrée, j'aurais dit je me casse, voilà, on arrête tout. J'aurais pas essayé de... Mais bon, il y avait la peur de... la peur de l'inconnu, la peur, oui, par rapport aux enfants, ce que je disais, la peur, enfin voilà, plein de peurs comme ça. Ça a été un garde-fou. Bon, c'est pas forcément très glorieux, mais c'est comme ça.
Bon, déjà, ce qui a été moteur, c'est que je voyais qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien et je préférais ça que s'il avait été rayonnant, heureux. Je me disais, mine de rien, je me dis, il n'y a pas que moi qui suis en cause, c'est pas seulement à cause de moi qu'il s'en va, c'est parce qu'il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien. Je pense que dans un couple, s'il y en a un des deux qui implore l'autre et qui, comme si tu avais besoin de ça, de l'autre, comme d'une béquille, je pense que c'est pas bon, quoi. Il faut que l'autre, il sente que tu es capable de vivre tout seul, sans lui.
Moi, j'étais vraiment pas bien physiquement. On a pu en parler après quand même, où j'ai pu dire quand même que c'était pas que cette expérience, même si ça a été douloureux pour Babette, puis pour moi aussi fatalement, mais voilà, parce que je pense que ça a débouché sur plein de choses positives. Ça, bon, évidemment, peut-être que ça aurait pu se faire autrement, hein, on aurait pu relancer la machine d'une manière différente, mais en tout cas ça a été un des moyens de nous relancer un peu dans le couple. C'était pas fait pour ça, mais ça a permis ça, en tout cas. Donc voilà, ça a été douloureux. Ouais.
Souvent, je me suis dit, il y en a qui mènent leur vie. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la vie qui m'a menée, quoi. Voilà. Oui, c'est plus la vie qui m'a menée. Et là, les enfants, ils sont arrivés. Enfin, et après, c'est devenu une évidence qu'avec Gilda, oui, on a eu énormément, on a encore énormément de moments... où c'est un plaisir de se lever le matin, où c'est... Voilà.
Je sais pas, on avait dû peut-être s'engueuler ou quoi, et tu dis, on partage rien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'activité ensemble, on fait pas de... Moi, je fais de la musique, tu fais plus du yoga, des trucs comme ça. On n'a pas vraiment d'activité ensemble. Et donc, dans les moments un peu noirs, c'est un peu le reproche de Babette, toi, on fait rien ensemble, on fait... Et puis quand même, à l'évidence, quand même, pour finir par dire, on vit quand même le quotidien, quoi, et ça dure. Et le quotidien, ça va, il se passe... Il y a des moments, bon, je sais pas, comme pour tout le monde, c'est un peu difficile, mais globalement, on a plaisir à être ensemble. On, voilà, petit déjeuner ensemble, manger ensemble, même avec les chaussures qui traînent, même avec les slips qui traînent, ça... Voilà, on partage un quotidien et ça dure.
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Voilà, comme je te dis, moi je me suis mise avec lui pour lui montrer que ça marcherait pas. Et puis finalement, ben, un an après, un an et demi après, on avait un gamin. Donc c'est là où tu m'as rencontrée à la fac, j'étais grosse enceinte. et puis ça n'a pas été tout rose quand même. On a fait le choix de se séparer en disant que en fait on ne s'en sortait pas, il y avait quelque chose dont on n'arrivait pas à parler, qu'on n'arrivait pas à résoudre tous les deux. Puis on s'est séparés en cohabitant, ça a duré quelques jours. Non, je pense qu'il y avait cette idée que, en tout cas pour moi, là, pour le coup c'était moi qui le vivais comme ça, une histoire de, quelque part, le sentiment d'un non-choix, de dire je me suis retrouvée un peu mise devant le fait accompli face à Jean-Baptiste qui me dit je veux plus te voir en octobre 2001, et que pour moi c'était impensable de ne pas passer du temps avec lui. Et le fait de se séparer à ce moment-là, pour moi en tout cas, ça m'a permis de faire le choix, moi. De dire, ah non, en fait, j'ai envie d'être avec lui et j'ai envie de continuer un bout de vie avec lui. Mais tout en sachant que ça ne serait jamais gagné. Voilà.
On était allé faire un week-end de communication non violente dans le couple. Ça avait été sacrément violent. mais ça a permis de soulever plein de problèmes. Et en fait, et surtout, de moi, ça m'a permis de comprendre un truc, c'est la notion d'attente. Et qu'est-ce qu'on attend de l'autre et qu'est-ce qu'on offre à l'autre. Et souvent, on offre à l'autre ce qu'on attend et pas ce que l'autre attend. Et que, bah, du coup, à chaque fois qu'il y a un truc un peu compliqué, moi, je me pose cette question-là, en fait, en disant, allez, hop. Arrête de réfléchir à ce que tu attends, demande-toi ce que l'autre attend en fait. Et du coup, bah, ça me permet d'avancer sur les trucs que j'ai du mal à prendre du recul sur notre couple.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on se choisit, qu'on part ou bien qu'on reste ensemble? Dans sa BD « La rose la plus rouge s'épanouit », Liv Strömquist explique que certains sociologues et philosophes prétendent que la raréfaction du sentiment amoureux serait liée, entre autres, à la disparition de l'autre. Or, dans l'amour, il est justement question d'altérité. Être amoureux consiste à trouver l'autre formidablement autre, inégalable, singulier, unique en son genre.
Donc, c'est un travail. En fait, le couple, c'est vraiment un travail. Comme dit Gilda, ben, on vit le quotidien. Et le quotidien, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Parce que sur les grandes idées, on peut être d'accord, mais le quotidien, la façon de vivre à tel endroit plutôt qu'à une autre. Moi, au départ, j'étais pas spécialement intéressée par vivre à la campagne, même si j'aimais bien la campagne, je connaissais rien, mais rien. Et j'étais contente, j'allais prendre l'air en ville, quoi. Régulièrement, je retournais en ville, je passais du temps, même quand les enfants étaient petits, j'appréciais la chaleur d'un appartement bien chauffé dès le matin sans avoir à ramener un truc, enlever des cendres, se geler, enfin, faire des kilomètres dans la neige pour aller bosser. Je me disais, mais mon Dieu, que je serais bien dans un métro, là, bien au chaud. Ah ouais, c'est là où je dis, j'ai fait des concessions. Mais oui, tout ça pour dire que c'est vraiment un travail, quoi. C'est un travail. Ça se construit, l'amour ou le couple, c'est quelque chose qu'on construit. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a permis de vous retrouver après des crises, après des épreuves, après des incompréhensions, des engueulades, ce genre de choses ?
Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que le compromis, c'est qu'on fait des compromis en fait, et on en fait beaucoup, mais qui sont moins importants en fait que ce qu'on vit ensemble. Donc, ça vaut le coup de les faire, ces compromis-là. Et en fait, on prend le temps de se comprendre. Et il y a toujours, c'est toujours l'un ou l'autre qui arrive à débloquer le truc. Et il n'y en a aucun de nous deux qui lâche prise. Et je crois qu'il y a ce truc-là, c'est dire, en fait, on ne lâche pas prise.
Après, je te rejoins, Jean-Baptiste, sur le fait qu'on fait des compromis. Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas de compromis, ni l'un ni l'autre. Et du coup, d'entendre là où l'autre, il n'est pas capable parce que c'est nécessaire pour lui, parce que c'est vital, et comment toi, tu le prends en compte. Et que... qu'on a cette capacité, je pense, on a toujours trouvé cet équilibre de dire il y a des choses pour soi, il y a des choses pour le couple, mais il y a aussi des temps à passer chacun de notre côté, ou en tout cas où on se fait plaisir et où on attend. L'autre n'est pas dans l'équation en fait. Et ça, c'est que ce soit dans le boulot, dans les amitiés, dans les sorties, dans le temps perso aussi à s'octroyer. Mais oui, je pense que de toute façon, cette première épreuve, c'était de dire « Ok, c'est pas gagné. En fait, ça sera jamais gagné. Et oui, c'est pas pour la vie. Ça sera tout le temps où ça sera bien. Et si un jour, on doit se séparer, on se séparera. Mais tant qu'on est bien là où on est, on construit et on continue effectivement à se poser des questions et à savoir ce qui est bien pour nous. » Et voilà, alors ça, c'est dans le discours, c'est très beau. Et puis dans les faits, il y a des fois où c'est plus compliqué. Quand on s'est mis ensemble avec Jean-Baptiste, on a été dans une confrontation vachement raide, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'en ai ce souvenir-là. C'est-à-dire, je me souviens, on venait de se mettre ensemble, c'était tout beau, tout rose. Et Jean-Baptiste, un jour, je ne me souviens pas pourquoi on en est arrivé à parler de ça sur le quai du métro, qui me dit « Mais tu sais, c'est voué à foirer, les couples, ils se séparent. » Et moi, j'étais là « Ben non, ça peut être pour la vie. »
On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
En fait, quand on vit quelque chose de dur, en fait, c'est dur de se projeter sans ce truc dur. Du coup, on se dit ce qu'on va continuer à vivre, ça va être dur. Peut-être, mais peut-être qu'il y aura du mieux. Et que tant qu'on n'a pas essayé, en fait, on ne peut pas voir. Et souvent, ça vaut le coup d'essayer. Parce qu'en fait, la difficulté a disparu et elle s'oublie. Enfin, moi, j'oublie et il n'y a pas de rancœur. C'est ça aussi, ça fait partie des points super importants, je pense. C'est que c'est passé, en fait c'est passé. Ça sert à rien d'y revenir dessus, de dire, parce que sinon on pourrait se reprocher 20 ans de dysfonctionnement. Et je m'en souviens, je peux le raconter, mais je me souviens pas ce que j'ai ressenti, le mal-être que j'ai eu, il est oublié en fait. Je me souviens juste de l'histoire, et du coup ça permet de se dire, là ce sera pareil pour ce moment-là. le mal-être, il va être oublié et je souviendrai d'histoire, mais on va continuer à avancer.
Et si tu recommences à énumérer tout ça, en fait, tu as la sensation de n'avoir passé que des épreuves. Mmh. Et puis après, c'est d'arriver à regarder et de se dire, ah, alors là, c'était cool, là, c'était simple. Et puis globalement, on en est là sans que ce soit dur, sans que ce soit... Ben voilà, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Quand tu te retournes en arrière, tu te dis pas, oh putain, la somme de trucs qu'on a dû surmonter pour en arriver là. C'est-à-dire, ah, c'est cool d'être là, en fait. C'est cool de continuer et d'en arriver là où on en est maintenant. Et puis, on en rediscute l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, et on verra bien où on en est, quoi.
Mais de garder des espaces pour soi en tant que personne, en tant qu'individu, est-ce que vous pensez que ça, c'est un des ingrédients de la fameuse recette magique ?
Ça, il n'y a pas le choix. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Hein. C'est vrai que le fait d'avoir eu des gamins super gamins, parce qu'on était quand même des gamins, je veux dire, à 20 ans, t'es pas complètement fini quand même. Ça nous a obligés à voir les choses un peu différemment. Et en fait, on s'est construit avec nos enfants aussi. Et on verra quand ils partiront. Non, on a le temps de construire autre chose parce qu'effectivement, comme disait Jean-Baptiste, ils sont plus grands et que ça y est, on peut se permettre aussi de repasser du temps juste tous les deux et donc de continuer à construire un truc à deux en fait, avec les enfants bien sûr, mais à deux aussi. Et maintenant, c'est quelque chose de primordial dont on a besoin, vraiment.
Et on est aussi un peu tête de mule et... En fait, les constats des couples qui ne marchent pas autour de nous, on les voit aussi depuis longtemps. Et ne pas faire comme les autres, c'est toujours bien. Donc, on se donne les moyens pour ne pas faire comme les autres.
Alors moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est peut-être un truc de mec. Hein. Moi, il faut que physiquement, ça vibre, quoi.
Et puis, moi, je me dis aussi le respect, quoi. Le respect de l'autre, c'est-à-dire, même dans les paroles, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on insulte, ou enfin des choses qui sont trop dures à entendre et qui peuvent casser. Enfin, il faut savoir s'arrêter. Et puis, se garder aussi, évidemment, mais ça, c'est chez tous les êtres humains, son petit jardin secret, quoi. Souvent, je dis à Gilda, en plus, t'es mon meilleur ami, quoi. C'est-à-dire quelqu'un à qui on peut tout dire et sans crainte de jugement, il est là, il est... Ah oui, c'est énorme. Pour moi, c'est vraiment aussi mon meilleur ami.
Pareil.
Et est-ce que vous vous êtes dit à un moment... C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie.
C'est pas le genre de réflexion que je me suis faite, mais bon, au bout de 40 ans, je peux quand même dire oui, c'est sûrement l'homme de ma vie. Oui, mais je l'aurais pas dit au départ, ah ouais, je suis tombée sur l'homme de ma vie. Non.
On n'est pas parti avec cette idée-là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas marié d'ailleurs, je ne sais pas.
Non, c'est marié.
Oui, mais on s'est marié après. On s'est marié après les ans, après, bien après, 15 ans après, 15 ans après que les enfants soient nés.
Est-ce que tu as envie que dans ton amour du quotidien, dans ton couple, dans ta vie, toujours, ce soit des grandes flammes ? Auquel cas, il y a peu de chances que ça dure. Mais par contre, si ça devient de la braise, c'est-à-dire la braise, c'est encore chaud, c'est encore lumineux. Et après, c'est comment tu attises la braise ? Tu souffles dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour que ça reste en combustion, en fait ? Sans forcément être dans des flammes de fou. Ben voilà, on en discutait tout à l'heure avant que tu arrives. Enfin, moi, Jean-Baptiste, c'est... Je ne peux pas dire que ce soit la passion dans le sens passionnel comme on l'entend, du coup de foudre, etc. Mais par contre, c'est la personne que j'aime le plus, dont je suis profondément amoureuse. Et où du coup, ben, c'est simple, mais effectivement, on souffle sur la braise régulièrement pour que ça, voilà, pour que ça continue à être là et à être chaud et à faire du bien, en fait. vraiment. Et moi, je me sens comme ça, voilà, avec Jean-Baptiste.
Du coup, si vous vous êtes rencontrés en 80, ça veut dire que aujourd'hui, ça fait 40 ans que vous êtes ensemble.
Ouais.
Et vous ne l'avez pas encore fêté ?
Nous, on n'a jamais fêté même d'anniversaire de mariage, parce qu'on s'est mariés il y a seulement 18 ans, non 17 20, non, 20 ans, non, 20 ans, 22 ans même, on s'est mariés. On s'est mariés il y a 22 ans, mais c'est jamais un anniversaire qu'on a fêté, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà.
Et la Saint-Valentin, vous la fêtez ?
Absolument pas, non.
Vous êtes raccord ?
Ouais, on est raccord sur plein de choses, en fait, quand même.
Dans Femmes qui courent avec les loups, Clarissa Pinkola Estes écrit « C'est le besoin de forcer l'amour à se perpétuer uniquement dans sa forme la plus positive » qui finit par provoquer sa mort. Aimer, c'est rester avec et émerger d'un monde de fantasmes pour entrer dans un univers où l'amour durable est possible. Face contre face, os contre os. Malgré tous ces éléments, je continue à me questionner. Mais peut-être qu'un des ingrédients de cette fameuse recette serait donc d'avoir le courage de rester avec, y compris au moment où l'on traverse des tempêtes, au moment où on se retrouve face à nos propres démons.
Che cos'è l'amor? Chi va al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susi.
Une création sonore réalisée par Maud Coatrieux et Elsa Groulade dans le cadre de la résidence Si loin, si proche, avec Mehdi Aoudig et Théo Fortunato, en partenariat avec Radio Live, Radio La et Radio Saint-Ferréol. Et un immense merci à Lucie, Babette, Jean-Baptiste et Gilda pour leur témoignage et à vous pour votre écoute.
Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'Amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina.
son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.